Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Les promesses de Dieu à ceux qui sont généreux. Quelles sont les promesses de Dieu à ceux et celles qui sont généreux? Dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5, qui nous dit, et c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, pas aux Philippiens, mais aux Corinthiens. Et il dit, je veux que vous soyez au courant de la générosité de l'église de Philippe. Rappelez-vous que l'épître aux Philippiens est une lettre de remerciement de l'apôtre Paul. Il écrit la lettre aux Philippiens à cause de leur générosité. Mais quelque temps plus tard, il écrit aux Corinthiens et il dit, j'aimerais que vous soyez au courant de la générosité des Philippiens. Il dit, alors même qu'ils subissaient de dures épreuves et qu'ils étaient dans une extrême pauvreté. J'ai envie de pleurer quand je lis ce passage-là. Parce que je me rends compte que c'est une puissante vérité que de pouvoir être généreux indépendamment des circonstances. Ils étaient dans une extrême pauvreté. Leurs vies ont débordé de joie en raison de leur générosité incroyable. Malgré la pauvreté et la crise et les difficultés, leur cœur débordait de joie à cause de leur générosité incroyable. Et Paul dit, j'ai personnellement été témoin de leurs dons, non pas simplement des dons qu'ils pouvaient se permettre, mais des dons qui allaient même au-delà de leur capacité humaine. Personne ne leur a dit de le faire. Cela était dû à leur propre cœur généreux. En fait, ils suppliaient et imploraient d'avoir le privilège de donner afin de servir le peuple de Dieu. Quand une église commence à supplier Dieu de leur donner l'occasion de donner, ils deviennent dangereux. Quand quelqu'un dit « je t'en supplie, laisse-moi donner », quelque chose s'est passé dans l'esprit. Il dit ici, et ils ont donné au-delà de nos attentes. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, ensuite à nous. C'est cela qui plaît à Dieu. Paul termine sa lettre aux Philippiens avec la plus grande promesse que la Bible contient. Cette promesse se trouve dans Philippiens 4:19, c'est la plus grande promesse. Pourquoi? Parce que cette promesse qu'on peut lire dans Philippiens 4:19 englobe toutes les promesses de la parole de Dieu. C'est une promesse exhaustive. Écoutez bien ce qu'il dit ici en Philippiens 4:19. Vous pouvez être sûr que Dieu prendra soin de tout ce dont vous avez besoin. Écoutez bien ça. Sa générosité surpassant la vôtre. Impossible d'être plus généreux que Dieu. Dans la gloire qui se déverse de Jésus. Versons le message. Vous pouvez être sûr que Dieu prendra soin de tout ce dont vous avez besoin. Tout le monde dit tout. Le mot tout signifie tout. Pas certaines choses, pas certains problèmes, tout. Dieu veut prendre soin de tout ce dont nous avons besoin. C'est une excellente nouvelle. Dans tous les domaines, ça veut dire en clair, Dieu dit je garantis de pourvoir à tes besoins parce que ma générosité surpassera toujours la tienne. Alors comment faire et pourquoi est-ce que nos besoins ne sont pas toujours satisfaits? Il y a plus de 7000 promesses dans la parole de Dieu. Et chacune ou presque des promesses est précédée d'une condition. Partout dans la Bible, vous allez voir que Dieu dit, si tu fais cela, tu auras cela. Si tu fais ceci, tu auras cela. Si tu agis comme ça, tu auras cela. Alors oui, il y a des conditions aux promesses de Dieu. Dans tout ce que je fais, je peux activer la manifestation des promesses de Dieu ou je peux désactiver certaines manifestations des promesses de Dieu. On a vu que les Philippiens, l'épître aux Philippiens nous enseignait à prendre une série d'habitudes, nouvelles habitudes, ne pas stresser, aimer les relations, des habitudes qui construisent une vie selon Dieu, une vie que Dieu bénit. Et c'est comme ça dans tous les départements de notre vie. Si je suis envers ma femme tendre et doux, je vais récolter de la douceur, de la tendresse. Si je suis agressif, invisible, si je l'ignore, je vais récupérer du mépris, de la désobéissance, que je veux, ce que tu veux. Il faut être capable ce soir de comprendre que chaque promesse que Dieu nous fait est précédée d'une condition. Tout le monde dit condition. Philippiens 4:19 nous dit que c'est une promesse extraordinaire. Je veux vous bénir dans tous vos besoins. La générosité de Dieu surpasse la vôtre. Ça veut dire en clair, Dieu te dit, je ne te laisserai jamais donner plus que moi je te donne. Imagine que tu donnes beaucoup à Dieu, tu ne seras jamais capable de surpasser ce que Dieu te donne. C'est une très très bonne nouvelle. Rappelez-vous, c'est une lettre de remerciement. Paul leur dit, je vais juste paraphraser pour vous, pour vous rappeler un petit peu, il écrit aux Corinthiens. Écoutez ça, moi j'imagine Paul, dans toute sa vie, il écrit aux Corinthiens, il écrit aux Thessaloniciens, il écrit aux Éphésiens, il écrit aux Tamponnés, il écrit aux Niçois. Et tout d'un coup, il écrit aux Philippiens et il dit, mais vous les gars, vous êtes au-delà de toutes les autres églises. Il y a en vous autre chose. Il dit, vous avez été les plus généreux envers moi. Vous m'avez aidé à plusieurs reprises. Je vous écris une lettre de remerciement. Une lettre qui vous dit merci pour la générosité en disant, j'ai reçu votre don. Et Dieu a tellement aimé ça qu'il a choisi que cette lettre de remerciement, cette lettre qui dit merci pour l'argent, merci pour le don, merci pour les offrandes, soit enregistrée dans la parole de Dieu pour qu'aujourd'hui, vous et moi, 2000 ans plus tard, nous la lisions et soyons encouragés, challengés, défiés, fortifiés par la parole de Dieu. Si notre cœur n'est plus motivé par les besoins de ceux qui nous entourent, c'est parce que nous avons accepté la sympathie au lieu de la compassion. On peut très bien avoir de la sympathie, de la pitié pour les gens, mais la pitié pour les gens les garde dans leurs problèmes, la compassion les sort de leurs problèmes. Quand une église est remplie de compassion, nous cherchons d'abord, avant toute chose, à être toujours là pour les autres, c'est-à-dire un canal pour que Dieu puisse agir au travers de ce canal. Vous êtes des canaux. Mais il y a une église qui nous a surpassés en termes de réputation à un tel point que Dieu a choisi et a décidé d'écrire leur nom dans la Bible, et c'est l'église de Philippe. Je relis pour vous rapidement dans 2 Corinthiens 8, je vais expliquer un petit peu, je vais paraphraser, écoutez ça, Paul dit en clair, « Je veux que vous soyez au courant, chers Corinthiens, de la générosité de l'église de Philippe, même alors qu'ils étaient dans les épreuves terribles, l'église de Philippe était dans de graves problèmes. Ils étaient extrêmement pauvres. » C'était une église extrêmement pauvre. Leur vie en débordait de joie. Ils ont donné malgré leurs difficultés, ils ont donné malgré leurs problèmes, et ils ont débordé de joie, non pas à cause des problèmes, mais à cause de leur générosité. Et Paul dit, j'ai été personnellement témoin des dons. En d'autres termes, ils ont donné plus que leur capacité humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, plus que leur capacité humaine? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que les humains leur ont demandé de faire. C'est une capacité qui vient de Dieu. Ça a été un désir, parce que connectés au cœur de Dieu, ils ont eu envie de donner, personne ne les a obligés. Parce que là, ce que Dieu fait, écoutez ça, l'église, Dieu, au travers de Paul, est en train de vanter l'église de Philippe. Il dit, ouais, les Corinthiens, vous savez quoi? L'église de Philippe, elle est extrêmement généreuse. Je vais essayer, 12 minutes, de vous expliquer quels seraient les bénéfices de la générosité. Pourquoi est-ce que c'est si important pour Dieu? Et pourquoi est-ce que dans l'Église, nombreux sont les chrétiens qui deviennent un petit peu gênés lorsqu'on parle d'argent, par exemple, de générosité? Et beaucoup de gens vont te dire, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est le temps et la vie. Ouais, mais le temps, c'est de l'argent. Et Jésus le seul ennemi auquel il s'est vraiment opposé dans la parole de Dieu pour nos cœurs, c'est Mammon. Donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va prendre la parole de Dieu, vous allez respirer un grand coup. Alors, écoutez bien, Église. On regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu es de ceux qui donnent ou de ceux qui prennent? Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu es plus dans l'équipe de ceux qui donnent ou dans l'équipe de ceux qui prennent? Ça fait mal comme question. Non, 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 on ne va pas être entre les deux. Il n'y a pas gris, il y a blanc ou noir. Et pourtant, Dieu dit, je vais pourvoir à tous tes besoins et ma générosité surpassera la tienne. Écoutez bien, Église, voici une première clé avant de commencer pour les bénéfices. Si ma générosité à ce niveau-là, par exemple, un niveau, je sais pas, sur une échelle de 100, elle est à 40, Dieu passe à 50. Et si ma générosité est à 80, Dieu passe à 100. Et si ma générosité passe à 100, Dieu passe à 200. Dieu va toujours s'assurer qu'il surpasse ma générosité. C'est pour ça que vous verrez toujours que quelqu'un de généreux, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quelqu'un de généreux aura toujours plus parce que Dieu peut lui faire confiance, parce qu'il sait que ce que lui donne ne restera pas dans ses mains, mais ira dans le partage de ce qui l'entoure. Alors, vous êtes prêts? On commence le marathon. Proverbe 11, 17 nous dit « L'homme bon et généreux se fait du bien à lui-même. » Si vous donnez des louanges à des gens, si vous les encouragez, vous allez voir que beaucoup vont aussi vous encourager. Si vous savez donner du temps aux gens, vous allez voir que d'autres personnes vont aussi vous donner du temps tôt ou tard, parce que Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut moquer. Dieu regarde sa loi qui s'appelle la loi des semences et des récoltes. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc quand tu donnes, quand tu sèmes de ton temps, de l'encouragement, de l'argent, tu récupéreras tout ça tôt ou tard. Alors quels sont les bénéfices que j'aimerais partager? Vont reposer sur un principe, je vous en supplie, notez le principe qui suit. C'est le principe fondamental de tout le message. Vous êtes prêts? Quelle que soit la chose dont vous avez besoin dans votre vie, c'est exactement dans ce domaine-là qu'il faut que vous donniez. Donne ce dont tu as besoin pour créer ce que tu as besoin. C'est un principe fondamental dans le royaume de Dieu. Donner, ce n'est pas perdre. Donner, c'est investir. Pourquoi est-ce que c'est un bénéfice d'être généreux? Quand tu es généreux, tu obtiens, tu gagnes, tu reçois la gratitude des autres. Je sais, vous allez me dire, oui, mais tu sais, moi, je m'en fiche ce que les gens pensent. C'est faux. Tous les hommes et les femmes sur Terre, tôt ou tard, doivent se poser la question suivante. Est-ce que ma vie a un impact positif sur ceux et celles qui m'entourent? Donc quand tu es généreux, les gens, en général, vont te dire merci. Et quand tu fréquentes quelqu'un de généreux, tu vas lui dire merci. Combien d'entre vous, vous connaissez quelqu'un qui vous a fait du bien un jour dans votre vie et vous penserez tout de suite à lui dire, oh, lui, quand je me souviens, quand j'étais dans la galère, j'avais un problème, il est venu m'aider. Les généreux ne sont jamais oubliés. Église, pourquoi c'est aussi important? Parce que lorsque tu donnes à quelqu'un, et la personne se rend compte que tu as investi en eux. Du temps, de l'argent, des vêtements, de l'énergie, tu as investi en eux. Écoutez ça. Tu gagnes ta vie par ce que tu fais. Mais tu gagnes la vie par ce que tu donnes. Je gagne ma vie par mon boulot, par mon job, par ce que je fais. Mais je gagne la vie, par rapport à ce que je donne. Et Paul dit aux Philippiens, en Philippiens 4, il dit, je suis tellement reconnaissant, je loue Dieu de votre aide, je vous remercie pour votre aide, merci pour l'offrande, merci de m'avoir aidé. Il dit en fait, vous avez été les seuls, Philippiens 4, vous avez été les seuls à m'avoir soutenu, à m'avoir aidé pour la bonne nouvelle. Aucune église n'a fait ça, aucune église. Paul est reconnaissant. Et Dieu aime tellement cela qu'il dit, Paul, je me joins à ta reconnaissance, je m'assure que cette reconnaissance-là aille directement devant le trône de Dieu et pour l'histoire entière. Premier principe, rapidement, premier bénéfice, quelqu'un qui est généreux n'est jamais oublié et les autres sont toujours reconnaissants envers lui. Entre termes, quelqu'un de généreux obtient la reconnaissance et la gratitude de ceux qui l'entourent. Deuxième chose, à chaque fois que je suis généreux, je montre ce qui est vraiment important pour moi. À chaque fois, écoutez bien Église, que je suis généreux, je montre, je révèle ce qui est vraiment important à mes yeux. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous ? Les choses ou les gens ? Et pour Dieu ? Les gens. Les choses ne sont pas importantes. La vie, ce n'est pas l'acquisition de choses. Et quand tu donnes, quand tu es généreux, quand je suis généreux avec mon argent, mon temps, mon énergie, à chaque fois que je donne quelque chose, je prouve que celle, la personne à qui je donne est plus importante que ce que je donne. Je vais redire ça. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, je prouve à ce quelqu'un que ce quelqu'un est plus important que le quelque chose que je donne. Et Philippiens 1:10, vous lirez chez vous, mais Philippiens 1:10, Paul nous dit, je paraphrase, je veux que vous compreniez ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, ce qui importe vraiment, c'est les gens, c'est la vie que je mène. Ce n'est pas l'acquisition, ce n'est pas l'accumulation des choses. Jésus a dit, la vie d'un homme ne consiste pas en l'abondance des choses qu'il possède. La vie d'un homme ne consiste pas en l'abondance des choses qu'il possède. Vivre, c'est aimer. Vivre, c'est apprendre à aimer les gens, apprendre à construire les gens, apprendre à construire des relations. Écoutez ça, mes amis, c'est la fin de ma vie. C'est la fin de ma vie, j'ai une énorme pile de choses. Si mon compte est blindé, mais que j'ai perdu ma femme et mes enfants, alors j'ai raté ma vie. J'ai manqué le but de ma vie. La vie ne consistera jamais à collecter des choses. La vie consiste à ramener le maximum de gens au ciel avec nous. Et Dieu nous comblera de nos besoins et il nous donnera plein de choses afin que nous en servions pour amener le maximum de gens avec nous au ciel. C'est ainsi que Dieu nous donne cette grâce de briser ce que j'appelle l'ennemi numéro un dans l'Église. L'ennemi numéro un dans l'Église aujourd'hui, c'est le matérialisme. Philippiens 3, 7 nous dit, « Toutes les choses, ces frivolités, qui autrefois me semblaient être tellement importantes, je les considère maintenant sans valeur. Je n'ai pas besoin d'un symbole de statut social pour me sentir bien à propos de moi-même. Je le considère sans valeur. » À cause de Christ. Entre termes, Paul dit, tout ce que je possède, mon statut social, mon titre, ça, ça n'a aucune importance parce que j'ai Christ. Qui veut apprendre à briser le matérialisme dans sa vie ? Il n'y a qu'une seule arme, la générosité. Qu'est-ce que le matérialisme ? C'est croire que posséder plus me rendra plus heureux, c'est de croire que si j'ai plein d'argent sur mon compte, je serai en sécurité. C'est de croire que si j'ai un bon boulot, je serai bien dans ma peau. Ça, c'est le matérialisme, de croire que l'argent fera la différence. Et pour briser cet esprit de matérialisme, la seule façon d'opérer, c'est d'être généreux. Et pourquoi cela est-il si important ? Parce que le problème du matérialisme, c'est que lorsque je suis matérialiste, je prouve que je ne dépends pas de Dieu, mais je dépends de l'argent. Et donc c'est un très très grave problème pour nous tous, parce que nous ne pouvons pas continuer à dire « Dieu est ma source » si l'argent devient ma sécurité. Troisième point ce matin, extrêmement puissant. La promesse que Dieu fait à celui ou celle qui est généreux. Lorsque tu es généreux, tu deviens plus comme Jésus. La générosité n'est jamais conditionnelle. Les gens que tu aimes et qui ne le méritent pas reçoivent plus facilement ton amour. Parce que justement, tu les aimes quand ils ne le méritent pas. Sois généreux parce que Jésus est généreux et non pas parce que l'autre le mérite. Jésus a toujours été généreux et Dieu veut que ses enfants soient généreux. Écoutez bien ça, à chaque fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un, à l'église, tes offrandes, tes dîmes, un vêtement, une voiture, tu te rapproches de plus en plus vers l'image de Jésus. Philippiens 1,11 nous dit « Vos vies sont remplies de qualités vraiment bonnes que seul Christ peut produire pour la gloire et la louange de Dieu. » Quand tu donnes, ta vie est remplie de qualités. Philippiens 2,4-5 nous dit « Ne soyez pas seulement à l'affût de vos propres intérêts. » Vous vous rendez compte à quel point c'est à compte courant, hein? Mais intéressez-vous aussi à ceux des autres. Votre attitude devrait être la même que celle de Jésus-Christ. Le quatrième avantage, on a vu le premier bénéfice, la première promesse de Dieu, c'est quand tu es généreux, tu gagnes le respect et la gratitude des autres. Deuxième, quand tu es généreux, tu montres ce qui est plus important pour toi. Troisième chose, quand tu es généreux, tu deviens comme Jésus. Quatrième chose, là c'est le principe pour moi le plus puissant dans ma vie ce matin, le plus challengeant. Regarde ton voisin et dis, fais gaffe là, ça va taper. Et là je vais prendre un risque que je n'ai jamais pris à l'église Extravagance. Et si je peux prêcher ce message avec vous ce matin, c'est parce que je vous fais confiance. L'église est assez mature pour recevoir la parole de Dieu. J'ai prêt, Mika ? Quand je donne et je suis généreux, je renforce ma foi. Écoutez bien ça. Pourquoi est-ce que ma foi devient plus forte et réelle lorsque je donne? Parce que lorsque je donne ce que j'ai, je dois à nouveau dépendre de Dieu pour recevoir ce que je n'ai plus. Si j'ai 14 voitures et que je donne une voiture, c'est assez facile malgré tout. Aucune foi n'est active. Mais si Dieu me dit, donne ta voiture, tu n'as plus de voiture, et il te dit, je prendrai soin de tous tes besoins, ma générosité surpassant la tienne. Le problème, c'est que jusqu'à ce jour, c'est encore un concept. La générosité dépasse la mienne. Gros, magnifique concept. C'est lorsque je suis face au test que ma foi devient active. Vous ne me voyez plus ? Alors ton voisin dit, je veux dépendre de Dieu. Je suis conscient que ce message-là peut fatiguer un peu de monde. Écoutez bien ça. Lorsque la générosité est vraie, c'est une déclaration de foi. Lorsque ma générosité est vraie, c'est une déclaration de foi. C'est-à-dire, Seigneur, je te donne ça. C'est pour toi, ou c'est pour mon voisin, ou ma voisine. Ou... Ok, Seigneur, tu me le demandes, je le fais. Je te fais confiance. Tu as promis que tu pourvoirais à tous mes besoins et que ta générosité surpassera toujours la mienne. Cinquième point. «
Quand je suis généreux, j'investis dans ma demeure éternelle. Je stocke. J'en ai parlé la dernière fois, donc je ne vais pas tout redire, mais quand Jésus a dit « Emmagasiner des richesses dans le ciel, où les voleurs, où la teigne, rien ne peut atteindre. Donnez, mettez votre stock au ciel. » Comment est-ce que vous le faites? Vous le faites à chaque fois que vous êtes généreux. Personne ce matin ne pourra aller au ciel avec toutes ses richesses. C'est impossible. Vous avez essayé, vous ne pourrez pas emmener votre Porsche, votre Peugeot, votre costard préféré, votre montre. Vous ne pourrez pas l'emmener au ciel. Par contre, vous pouvez envoyer la valeur de ce que vous avez au ciel par avance. Et tout ce que je donne aujourd'hui est stocké dans le ciel. Tout. Vous savez, dans ce passage, vous lirez chez vous dans Matthieu, lorsque Christ parle de Mammon et de Dieu et de là où est ton cœur, ton trésor et tout. Écoutez ça, lorsqu'il parle de tout ça, six fois il dit, il donne l'expression « amassez-vous le trésor », six fois. Les gars, quand Jésus dit une chose une fois, déjà c'est important. Tenez deux fois, c'est assez important. Quand il dit six fois dans le même passage, il dit « amasse tes trésors pour toi dans le ciel ». C'est très très sage d'avoir une bonne retraite sur terre, mais c'est vraiment beaucoup plus sage d'avoir une bonne retraite éternelle. La vérité, c'est que vous et moi, parfois, nous oublions que nous sommes des êtres éternels. Nous vivrons pour l'éternité. Et que la vie sur terre nous permet de stocker pour l'éternité. Pas de seconde chance, pas de purgatoire. La vie ne consiste pas à emmagasiner des choses, à posséder des choses ici sur terre. La vie consiste à envoyer des trésors dans le ciel. La vraie banque, la top des banques, la banque aux intérêts extraordinaires, c'est la banque céleste. Oublie les banques de la Réunion. Stock au ciel. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus logique de tout entreposer au ciel dès maintenant. Expédiez-les par avance. Vous savez quoi? Il y a deux choses éternelles. La vérité de Dieu, éternelle, et les gens. Les gens sont éternels. Investissez dans les gens. Investissez dans l'église. Investissez dans vos enfants. Investissez dans ce qui compte vraiment. Et Paul dit aux Philippiens dans 4:17, il dit, bien que j'apprécie vos dons, je paraphrase, vous, église de Philippe, je vous aime les gars, merci, vous m'aidez. Ce qui me rend le plus heureux, c'est la récompense bien méritée, entourez cela, bien méritée, que vous recevrez grâce à votre générosité. Paul dit dans la version américaine, il dit, je veux que vous receviez le bénéfice qui s'accumule sur votre compte. Quand tu donnes, le bénéfice sur ton compte spirituel est extraordinaire. Il y a deux façons de donner. Et c'est dans mon sixième point. Mon sixième point, c'est lorsque tu donnes, tu fais sourire Dieu. Lorsque ta générosité est vraie, tu fais sourire Dieu. Tu amènes de la joie à son cœur. Mais comment faire cela? Donnez-moi encore 3 minutes. Et je finis avec un principe puissant. Il y a deux façons de donner. Et ce matin, je vais vous donner une clé pour laquelle, une raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis même s'ils donnent. Ne levez pas la main, mais connaissez-vous des gens qui donnent tous les mois, mais qui ne sont peut-être pas bénis comme ils devraient l'être? Et d'autres chrétiens, vous les voyez, ils vont de gloire en gloire, ils sont bénis. Il y a 10 ans en arrière, ils avaient ça, aujourd'hui ils ont telle chose, et ils sont bénis. C'est quoi le problème? Pourquoi? Est-ce que Dieu fait des préférences? Non! Et c'est là où je vais finir avec une conclusion qui va vraiment achever ceux et celles qui n'aiment pas ce message et qui vont encourager ceux et celles qui aiment ce message. Il y a deux façons de donner. Tout le monde dit deux façons de donner. La première, c'est je peux donner parce que j'ai appliqué un raisonnement. Je raisonne. Je réfléchis. Et malheureusement, pour moi et pour vous, j'ai cherché dans la parole de Dieu. Si le don que je fais en raisonnant est un don que Dieu va bénir au sanctuple, la réponse est non. J'ai cherché dans la parole de Dieu tous les passages qui parlaient de la générosité de... et tous les passages qui parlent de la générosité selon Dieu, tous les passages bibliques qui parlent de la générosité selon Dieu parlent de sacrifice. Tous. Jésus est assis en face du tronc et il regarde comment est-ce que les gens vont mettre leurs offrandes. Vous savez l'histoire ? Et la dame, la vieille dame veuve, elle arrive et elle place son petit quart de sou. Et Jésus dit, elle m'a fait sourire, elle a touché mon cœur. Elle a donné plus que tous les autres riches parce qu'eux ont donné de leur superflu et elle a donné de son nécessaire. Et donc Jésus dit, il y a un groupe de gens qui ont donné, ça ne m'a pas touché. Et d'autres, une qui a donné ce qu'elle avait, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi ? Parce qu'il y a une générosité qui implique la foi et l'autre qui n'implique aucune foi. Et c'est pour cela que celui qui donne par obligation, par raisonnement, bon alors j'ai 100 euros, je donne 10 euros, c'est déjà bien, tiens Seigneur, je t'aime, voici ma part, boum, bye Seigneur, au revoir Seigneur, merci Seigneur, bénis-moi, au revoir, bye. Ce genre de don-là, Dieu te dit, ben, je t'aime mon fils, mais ça franchement, ça ne fait rien dans le spirituel. Et celui qui vient qui dit, Seigneur, combien tu veux que je donne ? Quel est ton montant pour ce moment-ci ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, avec ce que j'ai, avec ce que je suis ? Seigneur, dis-moi. Il dit, fais ça. Ok, Seigneur, je le fais, je fonce, c'est toi, entre toi et moi, c'est bon, allez, bam ! Il dit, vois, ça c'est mon fils, ça c'est mon fils. Il agit exactement comme son père, par révélation. Et je connais des gens, je connais... Surtout deux, en ce moment deux frères que je vois depuis des années. Je connais deux frères très proches de moi dans le monde. Je regarde vivre. Un est très discipliné dans sa dîme et ses offrandes. Il donne régulièrement tous les mois. Il est sage, il donne. Et je ne comprends pas pourquoi, mais il s'appauvrit. En tout cas, il ne s'enrichit pas. Il stagne. Un autre débarque il y a 3-4 ans et il est extrêmement généreux. Il est parti de rien. Il donne, gagne, presque fou. Et je le vois vivre, je vois que sa vie augmente comme ça. Je vois que ses comptes augmentent, je vois que son style de vie augmente, je vois que tout augmente. Il y a deux types de chrétiens. Il y a celui qui donne parce qu'il faut qu'il donne, parce qu'il est obligé de donner. Voilà, le pasteur a dit de donner, donc je donne, voilà. Ok, cool, donne pas. Cherche le cœur de Dieu parce que Dieu ne veut pas ton argent, il veut ton cœur. Et quand cette vieille dame-là est arrivée avec son petit sou, Dieu a dit, j'ai son cœur, assurément, j'ai son cœur parce qu'elle m'a tout donné. Parce que souvent je dis, oui, est-ce qu'il faut qu'on donne toi l'église ? Non ! Non, je ne dis pas ça. Je te challenge, je te défie ce matin. Comment est ta vie de générosité ? Est-ce que tu donnes seulement par raisonnement ? Bon, écoute, déjà c'est bien, je donne déjà 20 euros ou 100 euros ou 1000 euros, je m'en fiche du montant, c'est bien, ça suffit. Non, non, est-ce que tu donnes parce que tu aimes Jésus ? Tu veux inonder le monde de ta générosité ? Tu veux être comme ton Père Céleste ? Tu veux bénir les gens, les pauvres, la veuve, l'orphelin, les voisins, l'église ? Tu veux donner ? Commence petit, mais commence maintenant. Non pas comme obligation, mais comme un style de vie. Et alors le ciel sera ouvert. Jésus a dit, Dieu a dit dans Malachie, mettez-moi à l'épreuve. Apportez à ma maison 10 000 offrandes. Soyez généreux de votre vie. Et vous verrez, je ne vaux pas sur vous les écluses du ciel. Et les gens veulent que Dieu ouvre d'abord le ciel et après il donne. Dieu dit non, donne d'abord et j'ouvrirai le ciel. Et voici de cette dynamique que nous, ce matin, nous rajoutons pour votre vie. Ça, c'est une clé que je vous donne, mes amis. Ne donnez jamais par obligation. Dieu ne va même pas regarder ton offrande. Franchement, c'est dans la Bible. Mais Dieu aime celui qui donne avec joie. Il vient et dit, Seigneur, ce matin, j'ai ça pour toi. J'ai que 2 euros, mais c'est mes 2 euros pour lesquels j'ai bossé dur cette semaine. Seigneur, c'est pour toi et pour toi seul avant toute chose. Proverbe 3, honorez le Seigneur des prémices de vos revenus. Honorez le Seigneur, tiens, c'est pour toi. Voilà, je te donne, Seigneur. Dieu, qui est mon fils, je vais pourvoir. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est comme une grosse calotte, un tapin, un tirage de cheveux. Je sais que pour d'autres, c'est ce gars, il manipule, il veut notre argent. Yeah. Whatever. Moi, ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu peux vivre une vie avec Dieu. Selon ces termes, Jésus a dit, Dieu a dit, je surpasserai toujours votre générosité. Dieu a dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Jésus a dit, Matthieu 6, 33, il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus tout. Alors pourquoi est-ce que des chrétiens n'arrivent pas à vivre ce passage? Est-ce que Jésus ment ou est-ce que cela est réservé à une élite? Non! Ce passage de puissance, de vie est réservé à toute sa famille. Mais il faut passer du stade où réellement ma générosité n'est plus que de la bienfaisance. Ma générosité est un acte de foi, une proclamation qui dit « Je dépends de Dieu pour ma vie ».